France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un artiste qui, depuis qu'il a 8 ans, écrit dans un petit carnet qu'il sera la plus grande pop star de la planète. Un artiste qui imaginait déjà ses interviews avant même d'avoir sorti un premier titre. En 2015, il passe par The Voice Kids. En 2019, il représente la France à l'Eurovision. 3 albums plus tard, un Olympia, des polémiques, des triomphes, des remises en question. Et Bilal Hassani, notre invité donc, est toujours là. Plus que jamais, il est devenu une figure pop, queer, politique malgré lui parfois. Mais derrière l'icône, il y a surtout un immense geek de musique obsédé par les harmonies, la K-pop, les grandes divas, les constructions millimétrées. Et ce soir, il vient encore nous surprendre après la scène, après les clips, après les shows. Il passe au cinéma, à l'affiche de Nino dans la nuit, réalisé par Laurent Micheli. En salle demain, il incarne Malik. On va en parler avec lui. Bilal Hassani est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Nino Paradis. Les gens me demandent toujours si c'est mon vrai nom. Comme si ce nom collait pas vraiment à ma gueule. J'ai fait à peu près 1000 tafs, toujours les mêmes daubes.
L'inventaire doit être fini ce soir. Vous avez 12 heures pour tout checker.
Pourquoi je suis là au milieu des pires galériens prêts à crever pour un SMIC?
Si tu veux faire plus de fric, j'ai un truc en plus à te proposer.
Je veux tout offrir, même s'il faut tout voler.
Ça passe quoi?
Qu'est-ce que je suis en train de fuir?
Ce qui dort en nous depuis trop longtemps se dresse.
Trouver une place ici n'a plus d'importance. Celle qui nous attend sera au premier rang des enfers.
Là, on vient d'écouter un extrait donc, de la bande-annonce de Nino dans la nuit qui sortira donc, demain en salle. Bilal, comment ça va?
Ça va super, et toi? Et vous? Et toi?
Non, on se tutoie. On se tutoie.
Très bien, très
moi,
bien.
Je tutoie tout le monde, mais toi encore plus. On s'est déjà vu, on s'est déjà croisé. Comment tu te sens? Parce qu'effectivement, on te connaît, comme je le disais, hein, j'ai résumé un peu rapidement, mais depuis quelques années maintenant, moi je t'avais découvert, comme beaucoup de gens, sur YouTube même, avant qu'on te connaisse en tant qu'artiste. Là aujourd'hui, tu passes au cinéma, c'est ta deuxième fois au cinéma en réalité. Est-ce que tu avais prévu ça, de cette nouvelle carrière, peut-être en tout cas ce passage au cinéma?
Pas nécessairement. Le cinéma, c'était pas dans mes cordes. J'avais pas prévu vraiment de le faire. Je pense que Les Reines du Drame, qui est le premier film dans lequel j'ai tourné, a un peu ouvert cette brèche-là.
Film de Alexis Langlois.
Film de Alexis Langlois, énorme, que j'ai adoré faire. En fait, Alexis, j'ai adoré son travail. M'a offert le rôle, mais m'avait demandé de ne pas prendre trop de cours, de faire de coaching, de choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de réels qui aiment bien travailler avec leurs comédiens. Sur le plateau ou en préparation de tournage et tout. Et donc, du coup, j'avais trouvé une agent parce qu'il y avait eu ce rôle et je lui avais dit fais-moi faire des castings. Comme ça, je peux respecter la demande d'Alexis, mais quand même me préparer un petit peu.
Okay.
Et elle m'a dit ok, je vais trouver l'achat. Et premier casting qu'elle me sort, c'était Nino dans la nuit.
Okay.
Et du coup, je l'ai eu.
Okay.
Bon, je me suis dit écoute. Donc maintenant, je limite un petit peu parce que mon activité principale reste. J'essaye d'être artiste, chanteur d'abord. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Et le cinéma aussi. Donc du coup, j'essaye de limiter un peu à des projets, on va dire un peu coup de cœur ou quand il y a des choses qui me touchent. Le livre, là, en l'occurrence, je l'avais lu. Nino dans la nuit, c'est l'adaptation d'un bouquin de Capucine Azaviel et Simon Johannin. J'avais lu le bouquin, j'avais kiffé. Donc quand le casting est tombé, j'étais là, ah, ce serait trop bien de jouer dedans. Et on était 2000, c'était énorme, c'était trop sympa.
Alors c'est intéressant parce que donc tu as eu le casting et tu sais, parfois quand on connaît pas, il y a toujours parfois des questions, tu sais, de légitimité, de c'est soit un youtubeur ou une youtubeuse qui passe au cinéma ou un artiste qui passe au cinéma ou inversement, tu sais, ou un humoriste qui fait de la musique, je pense à Elise Moon à l'époque, bref, il y a toujours des questions, quoi qu'il arrive, en fait, peu importe, de légitimité. Est-ce que tu t'es posé ces questions-là, tu sais, de toi qui est quand même quelqu'un qui vient d'internet, même si aujourd'hui on peut pas te résumer à ça, et que tu chantes et que t'as sorti 3 albums, etc. Mais c'est encore une autre industrie, c'est encore un autre milieu. Est-ce qu'il y a ces questions de légitimité? C'est peut-être pour ça aussi que tu as voulu passer des castings.
De fou. Je pense que pour le premier film, je m'étais dit, bon, on m'a offert le rôle parce que c'était une évidence à la réalisation. C'est trop gentil, mais moi, j'y croyais bof. Enfin, j'étais là, si j'arrive sur le plateau et que je suis mauvais, ça va poser problème à beaucoup de gens. Après, on avait de l'âge. Enfin, il y a beaucoup de prépa. On a eu 8 mois de répétition pour Les Reines du Drame. Mais voilà, je voulais faire ces castings, justement pour essayer de voir s'il y avait quelque chose à faire. Je pense que je suis artiste, même si je viens d'Internet. Je sais aussi que Laurent Micheli, qui réalise Nino dans la nuit, avait pas, peut-être pas trop envie d'avoir de visage identifié dans le film. Donc je partais pas avec beaucoup de voilà d'avantages parce que ouais, j'ai dû le convaincre en gros. Je me rappelle avoir dû. J'ai passé, ouais, c'était 5-6 étapes où à chaque fois il fallait bien effacer Bilal Hassani pour montrer Malik et voir. Si je pouvais lui offrir une vision qui était bonne pour le personnage. Mais c'est vrai que la question, elle se pose souvent. Après, j'essaie de pas trop m'attarder sur ça. Moi, je viens d'une... Enfin, j'ai eu une formation polyvalente où je faisais de la danse, du théâtre, du chant depuis que j'ai 6 ans. D'abord au conservatoire, ensuite dans une école qui s'appelle l'AID. Et donc, du coup, vu que j'ai toujours fait beaucoup de trucs, je me suis jamais dit genre, que j'allais devoir me contraindre à faire qu'une seule chose dans
c'est
ma vie.
C'est pas déconnant pour toi, en fait, de passer d'un genre à l'autre, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Justement, parce que tu t'as dit il a fallu effacer Bilal Hassani. Est-ce que c'est facile pour toi d'effacer Bilal Hassani? Parce que c'est, mine de rien, c'est toi, c'est aussi peut-être un personnage, je ne sais pas, que t'incarnes aussi, qu'on voit depuis longtemps. Je pense que les gens qui te connaissent depuis longtemps, vraiment, bah, ça fait...
10 ans,
ouais, ouais, 10 ans en fait. Et pour les gens qui sont vraiment là depuis,
depuis
Day One,
c'est tout, ouais.
Exactement.
Bien sûr.
Et mine de rien, je pense que ça a aussi été quelque part un combat aussi d'imposer Bilal Hassani avec tout ce que ça a dû t'apporter de bonnes choses et de choses plus compliquées aussi. Est-ce que c'est dur d'effacer du coup ce que t'as mis autant de temps à comprendre et à imposer en tout cas?
À imposer, bien sûr. C'est un peu difficile. Sur le film, c'était très difficile parce que je suis quelqu'un de très réservé naturellement et je pense que mon personnage dans le film l'est aussi.
Ouais.
Mais la posture que j'offre de la pop star Bilal Hassani ne l'est pas.
Elle est extravertie.
Très extravertie, ouais. Très exubérant. Même sur YouTube, quand j'étais sur YouTube,
tout à fait.
J'étais là genre. Qui y croit, genre. Moi, j'y crois, quand je me regardais, quand je montais les vidéos, j'étais là, mais quoi, toi, tu parles fort comme ça?
Moi,
et
j'y
tout.
Croyais, hein.
Mais parce que c'est aussi moi, mais c'est juste que dans le confort d'une chambre où il y a vraiment juste une caméra et soi, on peut se créer un peu plus de zèle et tout, se dire, allez, on peut.
Et c'est d'ailleurs, je pense aussi, peut-être qu'il y a un des trucs cool dans la pop, parce que t'es quelqu'un qui est fasciné par la pop.
C'est ça.
Parfois, il y a des alter ego qui permettent de jouer des rôles, justement. Et on connaît plein d'artistes pop qui ont utilisé ce procédé,
bien sûr. Ouais. Et moi, j'incarne une version de moi-même sur scène, évidemment. J'ai dû beaucoup défendre le fait que c'était mon identité parce qu'il y avait beaucoup des choses dans mon esthétique qui étaient raccrochées à l'identité queer, à quelque chose de très politique. Et donc, du coup, quand on me demandait, mais c'est vraiment vous? Je disais, oui, si, c'est vraiment moi. Parce que c'est vraiment moi. Mais évidemment que le dessin que je fais du moi, pop star, n'est pas le moi au quotidien complètement, parce que j'ai du vent dans les cheveux, je fais des grosses high notes, il y a du make-up, il y a des paillettes, là il n'y avait pas ça dans le film, très difficile en effet. Premier jour de tournage, les 3 premiers jours de tournage, je regardais pas le retour, je voulais pas voir.
T'avais du mal à te regarder?
Ouais, beaucoup, parce que j'étais là, putain, ben voilà, j'ai été au maquillage pendant pas plus longtemps que 12 minutes, quoi. C'est tellement étrange.
Ce qui n'existe pas pour
ce
toi,
ce qui n'existe pas du tout pour moi. Bah, je suis l'habitué de la salle à maquillage. Donc, du coup, là, d'avoir la petite barbe de 3 jours, mes cheveux un peu ébouriffés et tout, j'étais là, bon, vas-y, faut montrer. Et donc, du coup, ça m'a demandé à puiser dans le moi un peu plus interne pour trouver le rôle. Et ouais, c'était assez difficile.
Et est-ce que, malgré tout, ce personnage de Malik, tu te reconnais en lui?
Un peu, ouais.
Ou il est dans... Qu'est-ce qu'il fait? À quel lien, en tout cas, comment tu t'attaches à lui?
Je pense que Malik est le personnage le plus responsable de la bande. Le film parle d'une bande de potes qui sont dans une situation assez précaire et qui essaient de naviguer dans un monde qui leur donne pas trop de place. Je pense que c'est le reflet de la société aujourd'hui.
Ouais.
Beaucoup des jeunes pourront se reconnaître dans leur...
Il y a un côté film générationnel peut-être aussi, en tout cas.
En tout cas, c'est un récit pour une génération. Moi, mon personnage est racisé et donc du coup doit traverser un peu peut-être différemment le monde et a dû se responsabiliser très tôt. Donc c'est un personnage, c'est l'un de ceux qui a un vrai travail de jour, qui doit bosser et tout. Et donc ça, je me reconnaissais pas mal dans le fait de devoir grandir un peu vite et d'être un petit peu au-dessus de son groupe d'amis et de les soutenir et tout. Ça, c'était les petits points de convergence que je trouve.
Est-ce que tu aurais quand même pu imaginer, toi, avoir un travail normal le jour?
Non.
Tu l'as jamais envisagé, ça?
En vrai, non, parce que quand j'étais petit, moi, j'ai dit à ma mère à 9 ans qu'il fallait que j'arrête l'école pour qu'on se consacre
à
la pop. Ouais, parce que je disais Michael Jackson, là, techniquement, à l'heure où je te parle,
déjà maman, en avance, là,
ça fait déjà 3 ans qu'il est dedans. Moi, là, je suis en retard et tout. Elle me disait, Bibi, tu fais n'importe quoi. Donc, elle m'a obligé le bac, évidemment. J'ai eu beaucoup de chance parce que avec Internet, j'ai pu commencer à gagner ma vie avant de finir le lycée. Et donc, à la sortie du lycée, j'ai directement commencé ma vie artistique. Je pense honnêtement que si j'avais dû, évidemment que je l'aurais fait.
Oui, bien sûr.
Mais que c'était que j'ai tout fait dans ma tête pour, voilà, pour l'éviter le plus vite possible et pouvoir avoir... J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de privilèges de pouvoir directement entamer ma vie artistique à l'âge adulte, quoi.
Tu parles de chance, mais c'est aussi un risque aussi de se mettre... Peut-être que tu t'en rendais pas compte quand tu étais jeune, mais de se mettre en scène, même à nu, enfin à nu, on se comprend, mais en tout cas, il y a parfois une impudeur dans le jeu de YouTube, qui est un jeu qui est accepté par tout le monde, et même dans... ce que nous, on attend de vous, des créateurs, ce qu'on vous demande. Donc, c'est aussi quelque chose qui... c'est un privilège que tu as gagné, mais tu peux aussi te brûler les ailes en faisant ça.
Ah, carrément. Ouais. Bah, je me rappelle que par rapport à la musique, déjà, à l'époque, on me disait... J'avais plein de potes qui se faisaient signer très vite, qui se sont fait signer des contrats, des beaux contrats, des belles avances, des trucs. Ils avaient genre... ils n'étaient pas suivis du tout et tout, mais parce que justement, c'était un peu à risque, je pense, pour l'industrie de la musique, de défendre des projets qui venaient d'Internet.
Tout à fait.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas quand même. Mais à l'époque, vraiment, on est il y a 10 ans, j'avais des DA de label et tout, des gens, des copains à moi artistes qui me disaient « Gars, genre, tu peux pas faire ça, tu vas jamais sortir un album, c'est impossible et tout. » Et moi, je leur disais « Les gars, genre, mon projet, je sais que il se traduit pas correctement dans le système majeur traditionnel et tout. Donc, j'ai décidé, oui, de prendre la voie B directement, avant d'essayer le A et de forcer l'entrée. Parce que je sentais que s'il fallait que j'amène ma perruque, mon glam, mon truc, ma musique qui est de la pop, qui est pas un genre, qui est quand même un peu un sous-genre en France.
Ouais, en termes de, voilà, au sens que toi, tu le vois en tout cas.
Comme je le vois, voilà, c'est pas de la musique c'est pas la musique la plus consommée, la pop comme je l'aime et comme je la fais. Donc du coup, je me suis dit, moi, je vais passer par mon chemin à moi. Et je savais que c'était risqué, mais en même temps, je me disais que le public que j'allais rencontrer allait me comprendre et la conversation, elle allait être directe. Et ça m'aide encore aujourd'hui. Mmh. Genre là, j'avais arrêté les réseaux après quand j'ai signé parce que avec l'Eurovision et tout ça, on m'a monté la tête en mode genre arrête YouTube maintenant, c'est bon et tout, genre vraiment fais que ça. Et là, je suis revenu il y a genre un an et je vois que tous les gens qui viennent d'Internet, qui partent d'Internet, on revient tous à un moment donné parce que c'est la maison en fait. Ouais. Et il y a ce truc où genre au moins là, on peut dire ce qu'on veut de notre art directement, facilement.
Et vous contrôlez ça. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Bilal, je propose qu'on écoute un morceau d'une chanteuse qu'on a reçue ici, qui s'appelle Mickey, qui a sorti un album qui s'appelle Industrie Plante il y a quelques mois maintenant. Je ne sais pas si tu le
sais. Bien sûr, bien sûr, j'adore Mickey.
J'imagine que tu la connais. Et on va écouter un morceau qui est peut-être le morceau peut-être le plus pop de l'album. Ça pique un peu quand même, qui est quand même une petite tête de tube quand même. Je pense qu'on peut dire que c'est de la pop. Bon, on s'écoute ça. Mickey, ça pique un peu quand même. Extrait donc de l'album Industrie Plante.
Dans ses yeux pistaches, je peux pas m'y faire. Y'a des bots qui font tout à notre place. À partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux comme tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire. J'essaie de trouver la femme, mais y'a rien à faire. Je raccroche mon tête, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça. Ça tombe à pic. Mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pic pic, ça me fout l'air. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pic pic, ça me fout l'air. Comme un célibataire de 30 balais. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des times et des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Bip bip, ça me fout l'air. Ça fait pic pic pic, pic pic pic. Ça fait. Ça fait pic pic pic, pic pic pic. Ça fait. Ça fait pic pic pic, pic pic pic. Ça fait. Ça fait pic pic pic. Ça fait.
Ça pique un peu quand même, donc morceau de Mickey, qui est présent sur l'album Industrie Plante.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Destination évidente, je lui ferai pas confiance, j'irai à contresens. T'as détourné tout le vrai, tous les jours tu mentais. J'ai coché ma bucket list, t'étais pas dedans. Pas dedans.
Ça, c'est un morceau qui s'appelle Bucket List,
ouais.
Qui est présent sur ton dernier album. Ouais. Alors aujourd'hui, t'es pas là pour un album, t'es là pour un film, Nino dans la nuit. Mais la question, elle est un peu, peut-être un peu cliché, mais où est-ce que tu te sens plus libre? Est-ce que c'est sur un plateau de cinéma, sachant que t'es guidé, t'es dirigé, là en l'occurrence par un réalisateur, Laurent Micheli, ou est-ce que c'est sur une scène quand tu performes des morceaux comme ça? Cette notion de liberté qui me semble quand même assez importante chez toi.
Ouais.
Est-ce que t'arrives à...
Je la cherche partout, c'est dur, c'est dur. En fait, ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai découvert le cinéma, c'était le collectif. Je pense que faire de la musique, ça peut être très vite solitaire.
Ouais.
Donc il y a un beau ressenti quand on est sur scène, mais le studio, je trouve que c'est un peu plus...
C'est plus dur.
C'est plus dur. Et tu portes ton projet tout seul un peu. C'est-à-dire qu'il y a ton nom sur l'album. Là, en l'occurrence, cette chanson, elle vient d'une mixtape que j'ai faite où je me suis senti... ouais, très seul, quoi. J'étais là, ok, tunnel de solo. Et en parallèle, je faisais Nino, je tournais Nino dans la nuit. Et quand j'allais les retrouver, j'étais en mode, ah, les copains.
Ouais.
Donc il y a un truc qui est assez sympa parce que, bah, déjà, c'est Laurent, c'est son film.
Ouais,
moi,
tout à
fait. Je ne suis qu'acteur, du coup.
Ouais, oui. Tu portes pas tout ça tout seul,
non,
en fait.
Non, non,
ouais.
Je suis pas responsable, en gros, du résultat final. Je suis responsable de la justesse du moment, de savoir jouer correctement et servir vraiment le projet d'un autre artiste. Et ça, je trouve ça super chouette. C'est un peu comme écrire une chanson pour quelqu'un ou des choses comme ça. Je trouve que ça relâche un peu la responsabilité, mais je préfère être sur scène.
Okay.
Quand même. Voilà.
C'est intéressant parce que tu sais, on parlait de toi en antenne avec l'équipe juste avant. C'est vrai qu'on se disait, Redouane qui travaille avec moi sur l'émission, me disait, mais en fait, Bilal Hassani, il aurait pu être un top youtubeur. D'ailleurs, tu commençais, t'as beaucoup d'abonnés sur ta chaîne. Et finalement, c'est pas ce que t'as choisi.
Non.
Peut-être que tu reviendras à YouTube un jour, je sais, on sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais t'as voulu créer, en fait. Enfin, non pas qu'on crée pas sur YouTube, en tout cas, t'as voulu faire de la musique.
Oui,
tu vois, c'était ça, ce rêve-là, je pense, ouais. Cette envie. C'était important pour toi, c'est vraiment ça que tu voulais faire. Tu voulais pas être connu à tout prix, en fait, mine de rien. Parce qu'on pourrait se dire ça. Tu sais, quand on a un gamin du temps qui dit je veux être une pop star, t'aurais pu vouloir être connu coûte que coûte. Mais en fait, c'est pas ça le sujet.
Ouais.
C'est vraiment.
Non,
devenir une pop star, en fait,
c'est
et faire de la musique.
Pop. Ouais, de la pop, de la musique, être sur scène. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube exclusivement pour créer un billet pour pouvoir produire de la musique. Donc, pour expliquer aux gens un petit peu, moi, je suis dans un label indépendant, donc j'ai ouvert ma structure, j'ai ma maison d'édition, mon label depuis 5 ans. Donc, ça veut dire que l'économie de mon projet repose sur moi, exclusivement. Il y a plein de choses à trouver, des aides, des trucs, des machins, mais ce qui a été intéressant à faire en créant une plateforme sur Internet, c'était de trouver un moyen d'avoir un modèle économique viable, autonome. Donc, il me permettait à moi de... Voilà. Donc, tout l'argent que j'ai toujours gagné n'a toujours que produit de la musique. Parce que c'est que ça que j'aime faire.
Mmh.
Et de pouvoir créer cette autonomie en ayant en plus une audience, ben ça me faisait, un, avoir un public qui était le mien, à qui je parlais directement. Deux, trouver des fonds pour pouvoir produire de la musique. Donc ouais, non, moi, mon idée, c'était pas du tout d'être top youtubeur. Si je voulais être hyper connu, j'aurais fait Maxi, genre télé-réalité, j'aurais une émission, serait partie en télé-réalité, émission Netflix, sur ma Mif et tout. J'aurais trouvé, bien sûr.
Ouais, ouais.
C'est facile. Enfin, c'est pas facile, mais c'est une autre life, quoi.
Ouais,
et moi, c'est pas du tout la vie que j'ai envie de mener. Moi, personnellement, je préfère le grind, voilà, de faire du son et aussi de maintenir un peu, j'emploie ce mot avec beaucoup d'humilité, mais l'audace de faire de la musique qui sort un peu des carcans, voilà. Parce que j'ai pas envie de non plus faire de la musique qui est simple, peut-être, et digeste. Et ça, c'est pas parce que j'ai envie d'être différent et que je veux faire de la musique. C'est parce que c'est tellement de la musique que j'aime, et je n'ai pas envie de sacrifier l'idée de faire de la musique que j'aime parce qu'il faudrait faire de la musique comme ça pour que ça soit plus accessible, etc. Moi, j'estime qu'avec beaucoup de résilience et en continuant, en étant un peu buté sur mon truc, et ben, à un moment donné, les choses, elles s'ouvrent. Et c'est comme ça que toute ma vie s'est faite jusqu'ici, et tout s'est ouvert à moi comme ça. Donc, voilà.
Tu dis, tu crées une économie, un business modèle qui repose sur toi, en fait, et du coup sur ton talent, mais aussi quelque part sur tes humeurs, sur ton buzz. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui peut être dangereux, mais qui est je pense, le lot de beaucoup de personnes aujourd'hui, le moment où ça va un peu moins bien pour toi, le moment où t'as une polémique, où un pas de... Enfin, peu importe. Du coup, est-ce que tout n'est pas fragilisé ? C'est-à-dire que demain, un artiste qui signe en major, en fait, il y a un sas de sécurité quand il a eu des succès auparavant. Mine de rien, toi, la situation dans laquelle tu es, c'est que tout repose sur toi. Donc le moment où ça va un peu moins bien pour toi, c'est plus compliqué.
Bien sûr.
Quand tout va bien évidemment. Mais il y a aussi quelque chose qui peut être assez terrifiant.
Carrément. Là-dedans. Ouais, et puis même, moi j'ai traversé beaucoup de moments où c'était un peu, où j'allais moins bien. Et donc du coup, ça allait moins bien pour tout. Nous, on a déjà eu des conversations. Alors, je travaille pas tout seul. J'ai beaucoup de chance. Et je pense que ça, c'est aussi l'une des clés qui permet à ce que le SAS... une version du SAS de sûreté existe, c'est que je travaille avec ma maman. Donc ma mère et
qui
moi...
Qui est ta manager
on peut, c'est la manager et c'est aussi la coproductrice. C'est avec elle qu'on dirige le label, les éditions. Voilà, moi je sais pas faire un dossier de sub voilà, pour aller chercher des
T'es une pop star, c'est pas à toi de faire ça, Bilal. Il y a des gens pour ça.
Voilà, voilà. Mais ma maman, c'était pas ce qu'elle savait faire non plus, mais elle a appris et c'est elle, voilà, c'est elle qui le fait. Donc on bosse ensemble et ça aide énormément. Quand ça va moins bien pour moi, elle trouve un petit peu. Mais il y a eu plein de fois où on s'est regardé dans les yeux avec ma mère et qu'on se disait genre...
Ouais.
On va fermer boutique.
Ah ouais, tu dis
ouais,
ça.
Bien sûr. Je pense qu'il y a un an et demi, jusqu'à il y a un an et demi, j'ai traversé une période où j'ai mis ma santé en danger, où j'étais moins dans ma tête, vraiment très très dispersée. Et donc du coup, ma santé en prenait un coup et mon efficacité aussi. Et même du coup, c'était arrivé jusqu'à toucher ma créativité. On s'est regardé, moi j'avais rien à dire à ce moment-là. Je disais, j'ai pas grand-chose à dire. Pas trop envie de faire, j'arrive pas à écrire de chansons. Ouais. Et en plus de ça, on n'a plus trop de ressorts pour pouvoir aller chercher voilà, des sous, des choses comme ça. Et on s'était dit, et donc oui, ça repose sur moi. Et donc du coup, ça me demande d'être bien. Mais j'ai l'impression que, enfin peut-être que je suis quelqu'un qui voit vraiment beaucoup le verre à moitié plein, mais j'ai l'impression que c'est bien, dans un sens, parce que ça me demande à toujours être dans une quête de bon. De toujours essayer d'aller mieux, de toujours essayer d'aller bien.
Parce que quand tu vas bien, les choses se passent bien.
Tout se passe bien. Moi, je suis vraiment genre comme une très bonne amie à moi dit plus égale plus, tu vois.
Je crois que je vois de qui tu parles. C'est je crois que j'ai entendu parler de cette personne.
Ouais, elle débute un peu, elle est en train de lancer un truc là.
Parle de la situation, voilà.
Mais je pense que c'est la vérité, genre. Et donc à chaque fois que je me mets dans le bon, et ben les choses se passent bien. Et donc oui, est-ce que je pourrais me dire allez, je me repose sur une major comme tu disais, ou genre une grosse structure. Je sais que la réalité fait que je ne peux pas. Genre je sais que un homosexuel perruqué maghrébin qui veut faire de la pop excentrique à grande échelle, c'est possible. Mais je pense que ça ne peut pas venir de la grosse
de l'industrie.
Structure. L'industrie, elle viendra, elle est venue, elle part, elle revient et tout. Et moi, au moment où elle est là, je me marie avec, je les adore, on serre la main. Mais je sais que ça peut pas, voilà, ils peuvent pas être instigateurs du truc.
Ouais.
Donc alors, je mets toutes les chances de mon côté pour le faire moi, en gros.
Bilal Hassani est avec nous jusque 23h. Ça c'est un extrait de ton passage à l'Eurovision. Aujourd'hui, comment tu regardes ce moment-là ? Parce que je pense que ça a été un gros moment d'exposition. Ça a pu être compliqué aussi avec ce que ça a généré derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es en paix avec ça ? Est-ce que t'as des regrets ? Est-ce qu'au contraire, t'as dépassé ça ? Comment tu regardes ce moment-là dans ta carrière ?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'attachent à ce souvenir qui peuvent être... qui peuvent me... Je peux trouver des petits regrets à certains niveaux, à beaucoup de niveaux. Ouais. J'avais 18-19 ans, j'étais un peu...
Très jeune.
J'étais très jeune. On m'a ouvert une porte, je suis rentré. J'ai pas compris tout ce qui se passait. Et je pense que c'est une période qui était vraiment tourbillonnesque, quoi. Donc, à la fois dans la manière dont j'ai dû aller très vite, j'ai dû faire un album en 2 semaines et tout... Et à la fois dans la récupération médiatique, moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. T'as 18 ans, tu comprends. Enfin, même
bien
si
sûr.
Moi, je suis un obsédé, hein, vraiment genre un fou de ça, tu peux pas te préparer à ce qui se passe quand d'un seul coup, tout le monde, tous les médias récupèrent ce que tu es et tout, le dissectent et tout. Donc, du coup, ça, j'étais pas prêt. Je pense qu'aujourd'hui, le morceau Roi, je l'aime toujours énormément. Je pense qu'il est très important. Je vois qu'il suit des gens maintenant très longtemps, enfin assez longtemps après. Pour, j'ai assez de recul sur le morceau pour me dire qu'il est cool. Et que c'est un morceau qui compte pour beaucoup de gens. Il compte aussi beaucoup pour moi. Mais ouais, c'est une période. Je pense qu'il fallait y passer. Mais
je trouve que même musicalement, ça ressemble peut-être moins à ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Mais c'est normal, tu es jeune aussi. J'ai l'impression que tu t'affirmes forcément plus aujourd'hui. Tu sais plus ce que tu aimes,
ouais,
peut-être plus
ça.
Ce que tu es aussi. Tout simplement, avec le temps.
Et puis. Ouais, genre, en fait, je pense qu'il y a une différence, il y a une nuance entre faire une chanson pour l'Eurovision et faire une chanson tout court.
Bien sûr.
Donc, il y avait un peu ça dans la mission. Et aussi parce que j'avais pas prévu que ça se passe aussi vite, quoi.
Ouais.
Mais j'aime beaucoup le titre et ce qu'il représente. Je pense que je suis très fier de cette chanson et de cet album aussi, de tout ce qu'il a représenté pour beaucoup de jeunes. Personnes qui se sentent un peu à côté. Je pense que moi, chaque artiste a un peu une mission dans son discours, qu'il le sache ou non. Moi, j'ai compris très tôt c'était quoi la mienne. Je sais que je parle aux marginaux et je sais que je parle à ceux qui, à qui on dit qu'ils doivent se mettre de côté dans la société. Je pense que quand j'avais 18 ans, c'était plus rose et facile et lisse pour moi de raconter ça. Et donc, du coup, je pense que j'avais un militantisme qui était un petit peu juvénile, quoi, novice et tout. Mais j'aime reconnaître la sincérité dans ce que j'avais à dire à ce moment-là. Et maintenant, je sais que je maintiens le fait que, voilà, il faut de la musique pour ceux qui sont à côté. Moi, j'ai des chansons comme ça dans le catalogue de plein d'artistes qui existent, qui ont eu cet effet sur moi. Man in the Mirror de Michael Jackson, Born This Way de Lady Gaga, c'est des chansons comme ça que j'écoute et qui me disent que j'ai le droit d'être moi, qu'il faut que je me regarde dans la glace, que j'accepte, voilà.
Ça fait deux fois que tu cites Michael, est-ce que c'est... la pop star que t'as le plus écouté?
C'est le début, je pense. Ouais. Il a un peu... Enfin, c'est lui et Madonna, mais lui, il a un peu inventé le jeu, quoi.
Je pense que la pop, telle qu'on l'a définie aujourd'hui...
C'est lui.
C'est Michael Jackson, oui.
Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent les Beatles ont inventé la pop, et il y a ceux qui savent que c'est Off the Wall de Michael Jackson, le vrai premier album de pop.
Attends, vraie question. Off the Wall ou Thriller?
Je vais être con, mais je vais dire Thriller parce que...
Ah, c'est pas con, c'est la réponse...
C'est la réponse plus généraliste, parce que je pense que Off the Wall est un...
Off the Wall, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire, c'est un meilleur album en termes de... Il est plus goûtu, quoi, il y a plus de matière.
Ouais.
Il y a plus de viande, mais Thriller, c'est la précision, c'est la curation que je trouve folle. C'est 9 titres, rien ou presque à jeter.
Ouais.
Une petite The Girl Is Mine, je sais pas.
Non.
Moi, je passe.
Non, je suis pas d'accord.
J'aime le morceau. Un peu moins. Mais voilà, BB Mine et tout. Genre, moi, je trouve qu'il est construit comme le mastodon qu'il est, Thriller, et c'est pour ça que c'est lui.
Très bien.
Mais Off the Wall a plus de juice, quoi.
On est d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'on écoute quelqu'un qui vient de sortir un album. Alors, c'est pas un extrait de son album, c'est Bruno Mars, qui est aussi une pop star qui a été très influencée par Michael Jackson, comme beaucoup de gens. Et je voulais qu'on écoute un petit morceau qui s'appelle. À péter, ça te parle ça? Je voulais qu'on l'écoute parce que je voulais qu'après on parle un peu de K-pop, parce que je sais que c'est très important pour toi. Est-ce que t'aimes ce morceau ou pas?
Ouais, il est énorme.
Et n'ayant pas ta culture K-pop,
ouais, bien sûr.
Je me demande dans quelle mesure les puristes valident ça le moment où ça devient vraiment extrêmement
c'est bien. C'est pour tout le monde, mais c'est très bien.
Bon, très bien, on s'écoute ça. Alors Bruno Mars et Rose à péter.
Game start. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking, drinking, smoke free, party all night. Come on.
together.
Game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya.
C'était donc Bruno Mars et Rosé avec l'énorme tube. Comment on dit
Apateux.
C'est apateux. Mm-hmm. Apateux. Merci, Bilal Hassani.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et on discutait un petit peu en antenne parce qu'évidemment, c'est pas vraiment un morceau de K-pop, mais c'est quand même un peu de la K-pop. Ouais. Je veux qu'on en parle ensemble parce que toi, t'es un fan.
Gros
de
fan
ce genre-là, justement.
Ouais, ouais.
Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est un genre musical qui, je veux dire, il n'y a plus vraiment de discussion, ça remplit des énormes salles chez nous, des stades aussi chez nous.
Bien sûr.
Ça y est.
Ouais, ouais.
Mais ça existe depuis longtemps. Toi, quel est ton rapport un peu avec ce genre-là? Comment est-ce que tu te prends ça? Parce que moi, typiquement, évidemment, j'entends parler de K-pop, j'ai même fait des émissions sur la K-pop, mais ça a toujours été un peu, pour moi, genre de ma génération, une curiosité un petit peu lointaine de qu'est-ce que c'est que ça. Toi, j'ai l'impression que pour les gens de ta génération, et encore plus pour quelqu'un comme toi qui s'intéresse à la musique, ça fait complètement partie de tes références, en fait. C'est pas une curiosité lointaine.
Non, non.
Donc, c'est quoi ton rapport avec ce genre-là?
Mon quotidien, il a la K-pop. Moi, déjà, j'écoutais de la K-pop, c'était pas cool. C'était rincé, flingué, si t'écoutais de la K-pop. C'était vraiment genre, ça te mettait de côté de fou.
C'est de la pop coréenne. Hein,
voilà, c'est de la pop coréenne. Moi, j'ai découvert ça en 2009, 8-9, un truc comme ça. Quand, alors, mon papa était expatrié au Vietnam. Et donc, je vivais la moitié de l'année chez lui. Et là-bas, sur MTV, c'est MTV Asia, MTV Asie, ils passaient beaucoup de clips de K-pop, dont un qui était un titre des Wonder Girls, ça s'appelait Nobody. Et c'était l'une des premières chansons de K-pop qui avait un peu réussi à s'exporter. Ouais. Elles avaient fait une tournée nord-américaine et tout. Et je m'étais pris le truc, j'étais là, elles sont trop belles. C'est très bien chanté, il y a beaucoup d'harmonie. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de... C'était très soulful. Si tu digues un petit peu la période 2010 de la K-pop, beaucoup des auteurs-compositeurs de cette musique-là, c'est des Noirs américains qui ont été rapatriés beaucoup d'abord par un mec qui s'appelle Harvey Mason Jr., qui est maintenant le président de la Recording Academy, des Grammys. Ce mec-là a fait, je pense, l'une des premières vagues d'auteurs-compositeurs américains.
Il a recruté quelque part des... Ouais.
Exactement. Et donc, c'était de la musique qui était à la fois très électronique, mais avec des accords très jazzy, beaucoup d'harmo. Les mecs étaient tous maquillés, et ça les rendait hyper sexy quand même. Genre, il y avait un truc où genre, la masculinité, elle est un peu redéfinie dans leur code-là. Et donc, moi, j'étais là, bah, c'est tout ce que je kiffe, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc, je me suis mangé ça. Des gros groupes, Shiny, EXO, Super Junior, Girls' Generation, genre vraiment. Et après, il y a eu BTS. Quand BTS est arrivé, ça a vraiment... j'ai senti le pivot et l'attrait que ça a eu, en fait, dans le monde. Et moi, c'est un genre chez lequel je vais chercher plein de choses. Je pense que c'est aussi intéressant de voir où est-ce qu'ils vont chercher leurs références, parce qu'elles viennent... Enfin, on va tous chercher un petit peu au même endroit, en réalité. Mais,
c'est où là, tu veux dire à l'Amérique?
Ouais, je pense que les Ricains et je pense que l'Amérique noire principalement est à la source d'absolument toute la culture qu'on va dire, quand c'est des références occidentales, je sais pas comment bien expliquer ça, western en gros,
oui, bien sûr.
Mais c'est chez eux que voilà. Donc moi, j'ai vu dans la K-pop, j'ai vu SWV, j'ai vu TLC, j'ai vu
donc tout le R&B des années 90, bien sûr.
J'ai vu tout ça, j'ai vu la Motown aussi beaucoup dans les codes. 13 Supremes, ouais, les Jackson, ouais, et tout, tout ça. Donc, je pense que, vu que ça, c'était aussi de la musique que je consommais, bah, j'ai vu les clins d'œil faits dans la K-pop, ça m'a fait manger ça. Et moi, après, maintenant, aujourd'hui, dans la musique que je fais, je chante, je danse, je joue des instruments, je produis un petit peu. Donc, c'est logique que, quand je vois à quel point eux, ils sont très, très chauds, mais genre à 10 000 années-lumière de nous, parfois en technique, et ben c'est très inspirant du coup d'aller s'infuser dans ça, de chercher et tout. Voilà, je pense que, enfin là, le prochain album que je fais, c'est un album qui est très électronique, donc il y a beaucoup de dance music, avec beaucoup d'instruments aussi, on fait de l'organique, on mélange tout ça, mais il y a eu beaucoup, encore une fois, quand on faisait une, je sais pas, une high note, une note poussée un peu à la fin d'un morceau, bah nous, au lieu d'en faire juste une, on fait 5 harmos, tu vois.
Ouais.
Et on met des trucs un peu rigolos comme ça, ça nourrit et puis ça te fait un petit peu le petit guili dans la nuque. Voilà. Je trouve que la K-pop me procure beaucoup ça, donc j'aime bien le positionner aussi dans ce que je fais, moi.
Ok, justement parce que tu disais que quand toi, tu vois les Wonder Girls, tu dis que c'est des chanteuses et qu'elles te fascinent à l'époque, tu les trouves magnifiques. Est-ce que quand t'es plus jeune et que tu commences un peu à être fasciné par des pop stars, est-ce que ce sont essentiellement des femmes à l'époque qui t'ont...
Beaucoup.
Surtout, essentiellement, ouais.
Ouais, beaucoup.
On parlait de Michael qui est un peu à part.
Et Michael qui est esthétiquement féminin de fou, c'est en vrai. Parce que quand tu regardes, si tu regardes Remember the Time de Michael Jackson...
Quel morceau,
l'un des meilleurs, il est en train de draguer Iman, tu y crois, c'est believable, genre t'es en mode genre ouais de fou, il est hyper viril, mais le mec a genre il a ma perruque, genre il a le dernier des eyeliner, il a un tatouage aux lèvres rouge, il est en glam down. Donc moi, mes icônes de la pop, c'est beaucoup des femmes, parce que j'estime que les femmes dans la pop et la pop culture a été pour moi portée par les femmes principalement, et l'est encore aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est plus animé par ce que propose au-delà de l'œuvre, hein, et de l'art, mais esthétiquement, par les meufs, et chez les mecs aussi, bah, c'est des mecs qui sont très très flamboyants. Parce que même je regarde, tu dis Freddie Mercury, bon, esthétiquement c'est facile, et en vrai, c'est un look quand même qui est très fort. Quand je regarde Bowie, toutes les éras, il y avait un nouveau perso qui était incarné et tout. Et en vrai, il y a plein de mecs aujourd'hui aussi qui m'inspirent pour ça. Je pense, dans l'un des artistes les plus actuels francophones, Folies,
absolument, très
look
fort, Folies. Ouais, c'est vrai.
Et très inspirant aussi, donc je cherche, mais quand c'est vrai que quand j'étais petit, je regardais Dalida, et j'étais là en mode, je pourrais pas, de mon vivant, monter sur scène un jour et pas avoir les cheveux comme ça. Parce que je sais pas, pour moi, c'est une extension. C'est comme, il y a des gens, ils ont besoin d'autotune, il y a des gens, ils ont besoin de... Tu sais, pour avoir un peu pour que l'esthétique, il aille au bout du truc. C'est peut-être un peu plastique quand je le dis comme ça, mais moi, c'est mon âme, genre c'est des femmes comme ça, c'est ma famille spirituelle, les cheveux c'est ma famille, genre je sais pas comment expliquer, j'ai besoin.
C'est terrible pour les chauves comme moi, ce que tu vas
dire. Désolé.
Voilà, je te le dis.
Mais elle, il y a des options.
Ouh, il y a un moment où il n'y a plus d'options, je te le dis.
Il y a des perruques, hein.
Bon, on est avec Bilal Hassani jusque 23h. Alors, Bilal, tu es un fan de pop, on l'a dit, je pense que les gens qui te... S'il y a des gens qui te découvrent aujourd'hui, ils l'entendent, ça se sent. Et je voulais qu'on fasse un petit jeu. Mm-hmm. Tu sais, c'est les jeux qu'on a maintenant sur les réseaux. Je donne deux noms, tu me dis qui tu choisis à chaque fois. Wow. Et le jeu, c'est, pour toi, la plus grande pop star. Oui, on y va. C'est parti.
Oh mon Dieu.
Beyoncé, Lady Gaga. Allez, on y va. Oh, on y va directement.
Horrible. T'es horrible.
Pour toi, encore une fois.
Purée. Non, c'est impossible. C'est que c'est vraiment genre ma gauche et ma droite là que tu m'as
donné.
Ah
ouais, on a commencé directement
avec trop fort. Je vais dire Beyoncé.
Pourquoi ?
Parce que je pense que la discographie est un poil plus impressionnante.
Ok.
Je pense qu'elle est plus impressionnante, la discographie. Ouais. Et j'ai l'impression, ouais, je vais dire Beyoncé.
Beyoncé ou Britney Spears.
Ah, Britney Spears, très importante.
Bien sûr.
Dans la pop, pour moi. Je vais rester sur Beyoncé. Mais Britney Spears, Blueprint, il ne faut pas sous-estimer. Britney Spears a beaucoup influencé la pop.
Beyoncé ou Madonna?
Allez, c'est fini le jeu. Bah, je vais dire Madonna.
Ok.
Pour moi, Madonna, ouais.
Madonna ou Rihanna?
Madonna.
Madonna ou Mariah Carey?
Oh, j'aime trop Mariah Carey. Je pense que pour la plus grande pop star de la planète, je vais le laisser à Madonna. Là.
Madonna ou Janet Jackson?
Ah!
Incroyable. Hein.
Horrible ce que tu fais. Oh là là.
Bah là, pour le coup, les albums de Janet sont. Je pense qu'en termes de pop star, Madonna, c'est. Mais les albums de Janet Jackson, c'est extraordinaire.
Ça lave tout. Moi, Janet Jackson, des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, tous les albums, ils sont encadrés 10 sur 10. Rien à dire.
Vraiment.
Même Damita Jo.
Et je pense que. Elle aurait encore, c'est une légende, hein, personne, mais elle aurait encore un plus grand statut si son frère n'était pas son frère. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'elle est un peu effacée, entre guillemets, par l'aura.
En France, beaucoup.
En France, tout à fait.
En France, on avait beaucoup le truc où c'était la sœur de Michael Jackson,
exactement.
Mais dans les années 90, la réalité, c'est qu'elle vendait plus que son frère, que c'était une plus grande star. Et The Velvet Rope, que je ne sais pas si vous connaissez, voilà.
Ultime,
écoutez cet album.
Évidemment,
voilà.
Ultime.
Mais je vais quand même rester sur Madonna.
Madonna ou David Bowie?
Ah! Ben, les deux ont inventé le jeu comme on le connaît aujourd'hui.
Ouais.
Le concept d'avoir une ère aujourd'hui, les gens disent « Ah, ma nouvelle era, era machin ». Eux, c'est les vrais champions, pionniers de ça. Je pense que j'ai plus d'appétence pour plus d'era de Madonna, donc je vais rester sur Madonna.
C'est quand que t'as animé une émission autour de la musique comme
c'est
ça.
C'est que j'en ai fait une sur le Move qui s'appelle okay. Sangaïdi, je t'enverrai, j'ai fait une saison.
Plaisir.
Après, bon...
Ah, je passe à côté.
Mais je vais te l'envoyer avec plaisir, mais j'ai fait ça, ouais, okay. Parce que je suis un gros fan.
Mais ça se voit,
sûr.
Bah oui. On en...
Ouais, de fou.
Madonna ou... Freddie Mercury.
Je vais dire Madonna.
Madonna ou Shiny.
Ah, gros, tu veux pas faire ça.
Donc c'est,
pardon, pardon.
Il a cassé le studio.
Ouais, j'ai cassé le studio.
C'est de la K-pop pour les personnes qui connaissent.
Et Shiny, c'est le sang de la veine. Alors, je vais envoyer tout mon amour à Shiny parce que je pense que c'est des vrais pionniers dans la manière dont la K-pop est ce qu'elle est aujourd'hui. Pour moi, c'est les rois de la K-pop.
Ouais, ok.
Mais pour moi, Madonna reste plus importante.
Madonna ou Frank Ocean?
Ah, oh,
c'est juste pour. J'avais envie de citer Franck. J'avais envie d'entendre parler de Frank Ocean.
Moi,
tout.
J'aime beaucoup Frank Ocean et je pense honnêtement que c'est l'un des artistes les plus importants du 21e siècle, si ce n'est le plus important du 21e siècle. Tout ce qu'il fait. Ouais, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera, c'est le GOAT.
Alors, est-ce que t'es plutôt team blonde ou Chanel Orange?
Je suis un enfant de Chanel Orange, moi.
Okay.
Donc, je trouve que Blonde est peut-être un meilleur album, mais. Pyramide.
Non mais les deux réponses sont parfaites.
Bad Religion. Je suis Chanel Orange.
Thinking About You.
Ouais.
Mais Madonna.
Mais Madonna.
Bon, Madonna ou Michael Jackson?
Ah, gras. Bah, en vrai de vrai, je vais devoir rendre à Michael Jackson là.
Ok.
Pff, c'est trop dur. Non, c'est quoi aujourd'hui? Pour aujourd'hui, je vais dire Madonna.
Ok.
Voilà. C'est bon.
Ça, c'est un statement.
Ouais, c'est un statement. Moi, j'ai l'impression que Michael Jackson a nourri l'iconographie de Michael Jackson. Et j'ai l'impression que Madonna a nourri la pop.
Ah, qu'elle a eu peut-être plus de personnes se sont inspirées directement de Madonna.
Peut-être parce que c'est plus facile. Peut-être que Michael Jackson, il y a un truc un peu intouchable qui fait que tu peux pas faire Michael Jackson sans qu'on ait l'impression que tu sois en train de faire du sosie.
Exactement,
quoi.
Ouais.
Alors que si tu fais Madonna... Bah, tout le monde fait... je pense qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de la pop actuelle est infusée de ce qu'elle a proposé. Je vais donner à Madonna aujourd'hui.
Bon, très bien. Madonna, donc, plus grande pop star de tous les temps, selon Bilal Hassani. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va continuer un peu à parler de Madonna après, parce que tu as une recommandation lien direct avec elle. Mais tout de suite, on va écouter un morceau d'une chanteuse qui s'appelle Arlo Parks, voilà, qui a une voix extraordinaire, qui a sorti récemment le morceau « Tout ça est dit », qui donc annonce son... prochain album, on s'écoute ça. C'est une chanteuse britannique, donc, Arlo Parks, que tu aimes bien, apparemment.
Que j'adore, ouais. On va au sport ensemble.
C'est vrai? Mais c'est incroyable. On va parler de ça, après. There's a sadness that I really can't shake. C'était Arlo Parks donc avec le morceau Two Sided.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et nous sommes avec Bilal Hassani, donc qui est là pour la sortie du film Nino dans la nuit, qui sortira demain, le 4 mars. Mais c'est l'heure des recommandations. Et tu m'as envoyé plusieurs recommandations, et notamment un album.
Oui.
Et tu sais que je ne l'avais pas écouté depuis longtemps.
Ah, je...
Et je l'ai réécouté ce matin.
Alors.
Exceptionnel.
C'est bon. Hein.
Et donc c'est l'album Erotica de Madonna, avec notamment ce morceau que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter, Deeper and Deeper. Alors, c'est un album sorti en 1992.
Ouais.
Alors, tu viens de déclarer tout ton amour à Madonna un petit peu avant. Pourquoi cet album ? Est-ce que c'est ton préféré de Madonna ?
Actuellement, oui.
Ok.
Ouais, ouais, je suis en train de me demander. Cette
era-là.
L'era est très intéressante. Je me rappelle qu'à l'époque, Erotica, c'était un album que je regardais moins. Mais en réalité, parce qu'il était très controversé, vu qu'il était accompagné d'un livre qu'elle avait sorti qui s'appelait Sex. Ou...
Ouais, ouais.
Voilà, il y avait tout ce truc-là. Et en fait, l'album est excellent. Il arrive après la chanson Vogue, qui était sortie avec un best-of.
Exactement. Et tu sens cette vibe-là, en fait.
Ouais, dans... c'est ça. Le truc hyper house et tout, genre. En fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a des gens, quand ils font de la musique dance, tu peux savoir s'ils sortent vraiment ou pas. Et pour cet album, ça se voit que Madonna, elle est vraiment sortie.
Okay.
Genre, elle est vraiment... C'est vraiment une
elle s'est inspirée de tout ça.
Elle est vraiment dans les clubs. C'est une vraie club rat, quoi. C'est comme ça qu'ils disent. Les club rats, c'est vraiment des rats des soirées, quoi. Genre, en mode, elle va, elle ponce les fêtes. Et ça sent... Je pense que... c'est un blockbuster, l'album. Il y a un truc où ça reste hyper edgy, enfin, très... pointu.
Tout à fait.
Je pense que ce morceau-là, il dure 5 minutes et quelques.
Ouais, ouais, exactement.
Et que tous les titres sont assez longs, que à la production, il se passe beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup le mariage organique électronique. Et donc, cet album, il a beaucoup inspiré celui que je suis en train de produire maintenant, qui va sortir cette année, où moi, j'ai eu, pour la première fois de ma vie, 6 musiciens au studio avec moi tous les jours, pour complimenter les prods qui sont hyper électroniques. Et c'était ça que j'aimais bien. Il y a des sections, ça part dans tous les sens.
Ouais, ouais.
Et très sexy. Le remix, enfin le cover de Fever, la chanson, trop stylée.
Est-ce que tu penses, parce qu'il y a quelques années, il y a un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Renaissance de Beyoncé, qui est aussi un album house, en tout cas hommage à aussi cette période-là, quelque part fait des années après. Est-ce que Beyoncé, elle est vraiment sortie ou pas selon toi ?
Elle est sortie ou pas ? Non, vas-y, je vais pas parler de Beyoncé. Moi, j'aime trop Beyoncé. Non, ce que je trouve qui est intéressant dans l'album Renaissance
Moi,
de Beyoncé...
Moi, j'adore cet album.
Je trouve
t'as
qu'il
pas,
est
t'as
excellent.
T'as pas l'air de démotant. Ah, ok.
Non, c'est l'un de mes albums préférés de Beyoncé. Vraiment, j'aime énormément Renaissance. Je trouve que la trilogie est très intéressante. J'ai hâte du troisième.
Ouais, ouais.
Je trouve que c'est parfait. J'ai l'impression que la posture de Renaissance est différente.
D'accord.
C'est pas un album qui dit genre... je sors et je suis.
Oui, je pense qu'elle n'est pas sortie,
non.
Moi.
Non, non, je pense pas non plus. Je pense que c'était plus repositionner la house d'où elle vient, genre essayer de donner un contexte historique à ce genre et qu'elle l'a fait après, du coup, avec la country, qu'elle va supposément le faire avec le rock. Pour le, et donc, j'ai l'impression qu'il y a une mission. Mais ce que je peux dire, parce que j'ai assisté au Renaissance Tour.
Moi aussi, j'ai aimé quand j'y allais.
Voilà, c'était une teuf.
C'était extraordinaire.
Je me suis éclaté.
Moi, c'était au Stade de France.
Ouais.
Je crois que j'avais dit ça un peu après. Elle a transformé le Stade de France en boîte de nuit.
En boîte de nuit.
C'est vraiment ce que j'ai ressenti.
J'ai jamais été dans un bon concert, honnêtement, au stade. C'est très compliqué de faire un bon concert au Stade de France.
Ouais, ouais.
C'était un très bon concert au Stade de France.
Et en plus, il faut raconter pour les gens qui n'ont pas eu la chance de le voir, c'est qu'au début, elle fait peut-être une demi-heure un peu
de balade.
C'est le cabaret.
Ouais.
Vraiment, elle est assise sur un piano et elle chante. Et à un moment, je me suis dit, peut-être c'est ça Beyoncé maintenant.
Ouais.
Peut-être qu'elle a plus envie de danser. En fait, évidemment que non. Et au bout d'une demi-heure, ça se transforme en show et c'est spectaculaire, vraiment. Et c'était incroyable.
Ouais,
c'était
vraiment un des meilleurs concerts que j'ai fait de ma vie. Choquante. Mais voilà. Mais ouais, je pense que Madonna, elle se la fout un tout petit peu en boîte. Surtout en 92. Quoi.
Ouais, évidemment. Voilà. C'est notre époque. Et justement, parce que tu parles un peu de cette époque-là, je me demande si t'es un peu nostalgique d'une époque, peut-être d'une époque que t'as pas vécue. Parce que la série que tu recommandes, c'est la série Love Story, autour de John Kennedy et de Caroline Bessette, que j'ai pas vu, mais j'ai entendu le plus grand bien, qui est sur Disney+.
Excellent.
Et qui se passe aussi dans les années 90, si je
ça se passe dans les années 90, ils se mettent ensemble, je pense, en 94, et malheureusement, du coup, voilà, on les perd en 99, l'année où moi je nais.
Ouais.
J'ai une obsession, c'est vrai, assez malsaine avec les années 90. J'aurais aimé grandir dedans. Je pense que c'est mon grand frère, ma cousine Imen et ma cousine Didi qui voilà, me montraient, m'ont nourri à leur culture qui était les années 90, qui était très proche de là où je suis né, et qui font que j'aime beaucoup cette série. Voilà, c'est un biopic sur ce couple-là iconique du fils de Kennedy, le président, et cette, en fait, sorte d'icône de Pinterest. Moi, j'avais la rêve de Caroline Bessette, Kennedy, en tant qu'icône mode. Elle travaillait chez Calvin Klein. Elle avait des looks très minimalistes, hyper cool, machin, léché et tout et tout. Et en fait, là, on voit un peu leur histoire d'amour. Je trouve que c'est très beau. Et c'est vrai que oui, j'ai une petite... Et alors, moi, j'aime pas trop l'humeur qu'on prend à vouloir toujours référencer le passé. Et j'ai envie que les années 2020 aient leur propre identité. Je suis,
c'est peut-être un peu trop tôt, peut-être, pour le
voir. Voilà, on le définira plus tard. Et il y a déjà des petits codes. Mais, et tout, de toute façon, on s'inspire de quelque chose. Et, voilà, et tout référence quelque chose. Mais c'est vrai que là, en ce moment,
c'est
j'ai pris la pile des 90s un peu. Là, je suis sous les 90. j'aime trop ça.
Bilal, c'est l'heure de la question qui tue. Et on a déjà abordé pas mal de choses qui peuvent aller dans le sens de cette question, mais pour toi, quelle est... Alors cette question, elle n'est pas de moi déjà, je viens de dire. Elle est de Sutus, qui est un producteur qui travaille avec toi. Il m'a envoyé un message hier, il m'a dit tu dois absolument poser cette question à Bilal pour la question qui tue. Donc je te la pose. Quel est pour toi le plus grand album pop de tous les temps? Album.
Putain, ok, c'est hyper dur. Je pense que je vais être horrible en réponse. Mais évidemment que le premier choix, enfin l'évident,
Thriller.
Serait dire Thriller de Michael Jackson.
Mais tu vas, mais t'es pas comme tout le monde.
Mais je suis pas
tu
comme.
Tu peux
tout
pas
le
dire
monde.
Ça, toi.
Non, non, non. Donc moi, je vais pas rester trop sur celui-là. Je pense que purée, c'est hyper dur.
C'est très dur.
En réalité, je vais essayer de défendre un disque que je trouve peut-être très important, qui va être Blackout de Britney Spears.
Ok.
Waouh.
Trop bien.
J'ai donné cette réponse.
Ok, let's go.
J'ai donné cette réponse. Pourquoi ? Je vais argumenter un tout petit peu. Je pense que Britney Spears, on la sous-estime un petit peu en tant que créative et que c'est le seul album,
d'accord.
J'ai l'impression, où elle a vraiment eu un input sur l'écriture et tout. Je pense que Denja est un des plus grands producteurs du 21e siècle, là, sous l'aile évidemment de Timba et tout. Mais je pense que c'est un très très chaud producteur. Et que j'aime beaucoup la manière dont l'album est effortless. Et je pense qu'il est pionnier d'un Brat aujourd'hui, de l'album
de Charlie XCX,
Charlie XCX, d'un Addison de Addison Rae, qui sont des albums plus récents qui viennent de ça. Et ouais, je pense, voilà, dans le 21e siècle, je vais donner cette réponse. Et dans le Pour Toujours, peut-être que je reste sur Thriller.
Oui, mais Thriller, en fait, on est tous d'accord pour Thriller. Tu vois, c'est que des tubes. Je crève d'envie de te voir reprendre cette émission qui est sans guide.
Avec
vraiment,
plaisir.
Je serai le premier auditeur.
Ok, let's go.
Vraiment,
vas-y,
entre tous tes projets, t'as d'autres choses à faire.
Je trouverai le temps.
T'as peut-être des priorités, mais voilà, je tiens à te le dire. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui,
merci
Bilal.
Beaucoup,
vraiment,
beaucoup.
C'était un plaisir. On rappelle donc que tu es à l'affiche du film Nio dans la nuit de Laurent Michelli qui sort le 4 mars.
Demain.
Demain, au moment où vous écoutez l'émission. Donc allez le voir, évidemment. Bravo pour ça. Et plein de bonnes choses pour la suite, pour l'album, j'imagine. Il y a des choses qui sont
exactement,
en préparation. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui ont participé à la la fabrication de cette émission qui était préparée par Alexa Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Adèle Caglar et Guillaume Roux. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous serons avec Philippe Etchebest.
Incroyable.
Et ça, je trouve ça incroyable. Demain, même heure, à la régulière.